Maupassant, le voyage du Aurora. J'avais reçu dans la matinée du 8 juillet le télégramme que voici. Beau temps, toujours mes prédictions, frontière belge, départ du matériel et du personnel à midi, au siège social, commencement des manœuvres à 3 heures. Ainsi donc, je vous attends à l'usine à partir de 5 heures, Jovis. À 5 heures précises, j'entrais à l'usine à gaz de la Villette. On dirait les ruines colossales d'une ville de cyclopes. D'énormes et sombres avenues s'ouvrent entre les lourds gazomètres alignés l'un derrière l'autre, pareils à des colonnes monstrueuses, tronquées, inégalement hautes, et qui portaient sans doute autrefois quelque effrayant édifice de fer. Dans la cour d'entrée, gît le ballon. Une grande galette de toile jaune aplatie à terre sous un filet. On appelle cela la mise en épervier. Et il a l'air en effet d'un vaste poisson, pris et mort. 200 ou 300 personnes le regardent, assises ou debout, ou bien examinent la nacelle, un joli panier carré, un panier à chair humaine qui porte sur son flanc en lettres d'or, dans une plaque d'acajou, le Horla. On se précipite soudain car le vase pénètre enfin dans le ballon pour un long tube de toile jaune qui rampe sur le sol, se gonfle, palpite comme un verre démesuré. Mais une autre pensée et une autre image frappent tous les yeux et tous les esprits. C'est ainsi que la nature elle-même nourrit les êtres jusqu'à leur naissance. La bête qui s'envolera tout à l'heure commence à se soulever. Et les ailes du capitaine Jovis, à mesure que le Horla grossit, étendent et mettent en place le filet qui le couvre, de façon à ce que la pression soit bien régulière et également répartie sur tous les points. Cette opération est fort délicate et fort importante, car la résistance de la toile de coton, si mince, dont est fait l'aérostat, est calculée en raison de l'étendue du contact de cette toile avec le filet aux mailles serrées, qui portera la nacelle. Le Horla, d'ailleurs, a été dessiné par M. Manley, construit sous ses yeux et par lui. Tout a été fait dans les ateliers de M. Jovis par le personnel actif de la société et rien au dehors. Ajoutons que tout est nouveau dans ce ballon, depuis le vernis jusqu'à la soupape. Ces deux choses essentielles de l'aérostation. Il doit rendre la toile imperméable au gaz, comme les flancs d'un navire sont imperméables à l'eau. Les anciens vernis à base d'huile de lin avaient double inconvénient de fermenter et de brûler la toile qui en peu de temps se déchirait comme du papier. Les soupapes offraient ce danger de se refermer imparfaitement dès qu'elles avaient été ouvertes et qu'était brisé l'enduit, dit cataplasme dont on les garnissait. La chute de M. Loss en pleine mer et en pleine nuit a prouvé l'autre semaine l'imperfection du vieux système. On peut dire que les deux découvertes du capitaine Jovis, celles du vernis principalement, sont d'une valeur inestimable pour l'aérostation. On en parle d'ailleurs dans la foule, et des hommes qui semblent être des spécialistes affirment avec autorité que nous serons retombés avant les fortifications. Beaucoup d'autres choses encore sont blâmées dans ce ballon d'un nouveau type que nous avons expérimenté avec tant de bonheur et de succès. Il grossit toujours, lentement. On y découvre de petites déchirures faites pendant le transport et on les bouche selon l'usage avec des morceaux de journal appliqués sur la toile en les mouillant. Ce procédé d'obstruction inquiète et émeut le public. Pendant que le capitaine Jovis et son personnel s'occupent des derniers détails, les voyageurs vont dîner à la cantine de l'usine à gaz selon la coutume établie. Quand nous ressortons, l'aérostat se balance, énorme et transparent, prodigieux fruit d'or, poire fantastique que mûrissent encore en la couvrant de feu les derniers rayons du soleil. Voici qu'on attache la nacelle, qu'on apporte les baromètres, la sirène que nous ferons gémir et mugir dans la nuit, les deux trompes aussi, et les provisions de bouche, les pardessus, enfin tout le petit matériel que peut contenir avec les hommes ce panier volant. Comme le vent pousse le ballon sur le gazomètre, on tente à plusieurs reprises l'en éloigner pour éviter un accident au départ. Tout à coup, le capitaine Jovis appelle les passagers. Le lieutenant Mallet grimpe d'abord dans le filet aérien entre la nacelle et l'aérostat, d'où il surveillera durant toute la nuit la marche du Horla à travers le ciel, comme l'officier de quart, debout sur la passerelle, surveille la marche du navire. M. Étienne Beer monte ensuite, puis M. Paul Besson, puis M. Patrice Sériès, et puis moi. Mais l'aérostat est trop chargé pour la longue traversée que nous devons entreprendre, et M. Sériès doit, non sans grand regret, quitter sa place. M. Jovis, debout sur le bord de la nacelle, prie, en termes fort galants, les dames de s'égarder un peu, car il craint, en s'élevant, de jeter du sable sur leur chapeau. Puis il commande « Lâchez tout !» et tranchant le coup de couteau les cordes qui suspendent autour de nous le lest accessoire qui nous retient à terre, il donne voir là sa liberté. En une seconde, nous sommes partis. On ne sent rien. On flotte, on monte, on vole, on plane. Nos amis crient et applaudissent, nous les entendons presque plus. Nous ne les voyons qu'à peine. Nous sommes déjà si loin, si haut. Quoi, nous venons de quitter ces gens là-bas? Est-ce possible? Sous nous, maintenant, Paris s'étale, une plaque sombre, bleuâtre, hachée par les rues, et d'où s'élancent de place en place des dômes, des tours, des flèches. Puis tout autour, la plaine, la terre que découpent les routes, longues, minces et blanches, au milieu des champs verts, d'un vert tendre ou foncé, et des bois presque noirs. La Seine semble un gros serpent roulé, bouché immobile, dont on n'aperçoit ni la tête ni la queue. Elle vient de là-bas, elle s'en va là-bas, en traversant Paris, et la terre entière a l'air d'une immense cuvette de presse et des forêts qu'enferme à l'horizon une montagne basse, lointaine et circulaire. Le soleil, qu'on apercevait plus d'en haut, reparaît pour nous, comme s'il se levait de nouveau, et notre ballon lui-même s'allume dans cette clarté. Il doit paraître un astre à ceux qui nous regardent. M. Mallet, de seconde en seconde, jette dans le vide une feuille de papier à cigarette et dit tranquillement « nous montons toujours !» Tandis que le capitaine Jovis, rayonnant de joie, se frotte les mains en répétant « Ah, ce vernis! Ah, ce vernis !» On ne peut en effet apprécier les montées et les descentes qu'en jetant de temps en temps une feuille de papier à cigarette. Si ce papier, qui demeure en réalité suspendu dans l'air, semble tomber comme une pierre, c'est que le ballon monte. S'il semble au contraire s'envoler au ciel, c'est que le ballon descend. Les deux baromètres indiquent 500 mètres environ. Et nous regardons, avec une admiration enthousiaste, cette terre que nous quittons, dans laquelle nous ne tenons plus pas rien, et qui a l'air d'une carte de géographie peinte d'un plan démesuré de province. Toutes ces rumeurs, cependant, nous arrivent, distinctes, étrangement reconnaissables. On entend surtout le bruit des roues sur les routes, le claquement des fouets, le hu des charretiers, le roulement et le sifflement des trains, et les rires des gamins qui courent et jouent sur les places. Chaque fois que nous passons sur un village, ce sont des claveurs enfantines qui dominent tout et montent dans le ciel avec le plus d'acuité. Des hommes nous appellent, des locomotives sifflent. Nous répondons avec la sirène qui pousse des gémissements plaintifs, affreux, maigres, vraies voix d'êtres fantastiques et rendent autour du monde. Des lumières s'allument de place en place, feux isolés dans les fermes, chapelets de gaz dans les villes. Nous allons vers le nord-ouest après avoir plané longtemps sur le petit lac d'Enghien. Une rivière apparaît. C'est l'Oise. Alors nous discutons pour savoir où nous sommes. Cette ville qui brille là-bas, est-ce Creil ou Pontoise? Si nous étions sur Pontoise, on verrait, semble-t-il, la jonction de la Seine et de l'Oise. Et puis ce feu, cet énorme feu sur la gauche, n'est-ce pas le haut fourneau de Montaterre? Nous nous trouvons en vérité sur Creil. Le spectacle est surprenant. Sur la terre, il fait nuit et nous sommes encore dans la lumière à 10 heures passées. Maintenant, nous entendons les bruits légers des champs, le double cri des cailles surtout, puis le miaulement des chats et le hurlement des chiens. Certes, les chiens sentent le ballon, le voient et donnent l'alarme. On les entend par toute la plaine aboyer contre nous et gémir, comme ils gémissent à la lune. Les bœufs aussi semblent se réveiller dans les étables, car ils mugissent. Toutes les bêtes effrayées s'émeuvent devant ce monstre aérien qui passe. Et les odeurs du sol montent vers nous, délicieuses. Odeurs de foin, des fleurs, de la terre verte et mouillée, parfumant l'air. Un air léger, si doux, si savoureux, que jamais de ma vie je n'avais respiré avec tant de bonheur. Un bien-être profond, inconnu, m'envahit. Bien-être du corps et de l'esprit, fait de nonchalance, de repos infini, d'oubli, d'indifférence à tout, et de cette sensation nouvelle de traverser l'espace sans rien sentir de ce qui rend insupportable le mouvement sans bruit, sans secousse et sans trépidation. Tantôt nous montons et tantôt nous descendons. De minute en minute, le lieutenant Mallet est suspendu dans sa toile d'araignée. Dit au capitaine Jovis, « Nous descendons, jetez une demi-poignée !» Et le capitaine, qui cause et rit avec nous, un sac de lest entre ses genoux, prend dans ce sac un peu de sable et le jette par-dessus bord. Rien n'est plus amusant, plus délicat et plus passionnant que la manœuvre du ballon. C'est un énorme joujou, libre et docile, qui obéit avec une surprenante sensibilité, mais qui est aussi, et avant tout, l'esclave du vent auquel nous ne commandons pas. Une pince et le sable, la moitié d'un journal, quelques gouttes d'eau, les os du poulet qu'on vient de manger, jetés au dehors, le font monter brusquement. Le fleuve ou le bois qu'on traverse, nous soufflant un air humide et froid, le fait descendre de 200 mètres. Sur les blés mûrs, il se maintient, et sur les villes, il s'élève. La terre dort maintenant, ou plutôt l'homme dort sur la terre, car les bêtes éveillées annoncent toujours notre approche. De temps en temps, le roulement d'un train nous arrive ou le sifflet de la machine. Sur les lieux habités, nous faisons mugir la sirène. Et les paysans, affolés dans leur lit, doivent se demander en tremblant si c'est l'ange du jugement dernier qui passe. Mais une odeur de gaz forte et continue nous frappe. Nous avons rencontré sans doute un courant chaud, et le ballon se gonfle, perdant son sang invisible par le tuyau d'échappement qu'on nomme appendice, et qui se referme de lui-même dès que cesse sa dilatation. Nous montons. La terre déjà ne nous renvoie plus l'écho de nos trompes. Nous avons déjà passé 600 mètres. On n'y voit pas assez pour consulter les instruments, on sait seulement que les feuilles de papier de riz tombent sous nous comme des papillons morts, que nous montons toujours, toujours. On ne distingue plus la terre. Des brumes légères nous en séparent. Et sur nos têtes, le peuple des étoiles scintille. Mais une lueur naît devant nous, une lueur d'argent qui fait pâlir le ciel. Et soudain, comme si elle s'élevait des profondeurs inconnues de l'horizon inférieur, la lune apparaît sur le bord d'un nuage. Elle semble venue d'en bas, tandis que nous la regardons de très haut, accoudée à notre nacelle comme les spectateurs sur un balcon. Elle se dégage, luisante et ronde, des nuées qui l'enveloppaient, et elle monte au ciel, avec lenteur. La terre n'est plus, la terre est noyée sous les vapeurs laiteuses qui ressemblent à une mer. Nous sommes donc seuls maintenant avec la lune, dans l'immensité, et la lune a l'air d'un ballon qui voyage en face de nous, et notre ballon qui reluit a l'air d'une lune plus grosse que l'autre, d'un bon errant au milieu d'un ciel, au milieu des astres, dans l'étendue infinie. nous ne parlons plus, nous ne pensons plus, nous ne vivons plus. Nous allons délicieusement inertes à travers l'espace. L'air qui nous porte a fait de nous des êtres qui lui ressemblent, des êtres muets, joyeux et fous, grisés par cette envolée prodigieuse, étrangement alerte, bien qu'immobile. On ne sent plus la chaleur, on ne sent plus les os, on ne sent plus palpiter le cœur. On est devenu quelque chose d'inexprimable, des oiseaux qui n'ont pas même la peine de battre de l'aile. Tout souvenir a disparu de nos âmes, tout souci a quitté nos pensées. Nous n'avons plus de regrets, de projets, ni d'espérance. Nous regardons, nous sentons, nous jouissons éperdument de ce voyage fantastique. Rien que la lune et nous dans le ciel. Nous sommes un monde vagabond, un monde en marche, comme nos sœurs les planètes. Et ce petit monde en marche porte 5 hommes qui ont quitté la Terre et l'ont déjà presque oublié. On y voit maintenant comme en plein jour. Nous nous regardons surpris de cette clarté, car nous n'avons à regarder que nous et quelques nuages d'argent qui flottent plus bas. Les baromètres indiquent 1200 mètres, puis 13, puis 14, puis 1500, et les feuilles de papier de riz tombent toujours autour de nous. Le capitaine Jovis affirme que la Lune souvent a fait ainsi s'emballer les aérostats et que le voyage en haut va continuer. Nous sommes maintenant à 2000 mètres. Nous montons encore à 2350 mètres. Le ballon enfin s'arrête et nous faisons mugir la sirène, surpris qu'on ne nous réponde point des étoiles. À présent, nous descendons très vite sans nous en douter. Monsieur Mallet crie sans cesse « Jetez du lest, jetez du lest !» Et le lest qu'on précipite dans le vide, sable et pierre mêlés, nous revient dans la figure comme s'il remontait et lançait d'en bas vers les astres, tant est rapide notre chute. Voici la terre. Mais où sommes-nous? Cette pointe en l'air a duré plus de 2 heures. Il est minuit passé et nous traversons un grand pays sec, bien cultivé, plein de routes, très peuplé. Voici une ville, une grande ville à droite, une autre à gauche, plus loin. Mais tout à coup, à la surface du sol, une lumière éclatante, féerique, s'allume et s'éteint, puis elle reparaît et s'efface de nouveau. Jovis, que grise l'espace, s'écrie « Regardez, regardez ce phénomène de la lune dans l'eau. On ne peut rien voir de plus beau la nuit. » Rien, en effet, ne peut faire imaginer pareille chose. Rien ne peut donner l'idée de l'éclat prodigieux de ces plaques de clarté qui ne sont pas du feu, qui ne semblent pas des reflets, qui naissent brusquement ici ou là et s'éteignent tout aussitôt. Sur les ruisseaux qui serpentent, ces foyers ardents apparaissent en même temps à chaque détour du cours d'eau. Mais comme le ballon passe aussi vite que le vent, à peine a-t-on le temps de les voir. Nous sommes maintenant assez près de la terre, et notre ami Beer s'écrie « Regardez donc, qu'est-ce qui court là-bas dans ce champ? N'est-ce pas un chien ?» Quelque chose court en effet sur le sol avec une prodigieuse vitesse, et ce quelque chose semble franchir les fossés, les routes, les arbres, avec une telle facilité que nous ne comprenons pas. Le capitaine riait « Mais c'est l'ombre de notre ballon, dit-il. Elle va grossir à mesure que nous descendrons. » J'entendis distinctement un grand bruit de forge dans le lointain, et comme nous n'avons cessé durant toute la nuit de nous diriger sur l'étoile polaire, que j'ai souvent regardé et consulté du pont de mon petit yacht sur la Méditerranée, nous allons indubitablement vers la Belgique. Notre sirène aux deux trompes appelle sans discontinuer. Quelques cris nous répondent, cris de charretier qui s'arrête, cris de buveurs attardés. Nous hurlons « Mais où sommes-nous ?» Mais le ballon va si vite que jamais l'homme effaré n'a le temps de nous répondre. L'ombre grossit du hors-là, large comme une balle d'enfant, fuit devant nous, sur les champs, les routes, les blés et les bois. Elle passe, nous précédant d'un demi-kilomètre. Et j'écoute à présent, perché hors de la nacelle, le grand bruit du vent dans les arbres et sur les récoltes. Je dis au capitaine Jovis, comme ça souffle. Il me répond, non, ce sont les chutes d'eau, sans doute. J'insiste, sûr de mon oreille qui reconnaît bien le vent pour l'avoir entendu si souvent siffler dans les cordages. Alors Jovis me pousse le coude. Il a peur d'émouvoir ses passagers joyeux et tranquilles, car il sait bien qu'un orage nous chasse. Un homme enfin nous a compris, il répond « Nord !» Un autre nous jette le même mot. Et soudain, une ville considérable, d'après l'étendue de son gaz, se montre juste devant nous. C'est l'île, peut-être. Comme nous approchons d'elle, apparaît sous nous, tout à coup, une si surprenante lave de feu. Je me crois emporté par un pays fabuleux où on fabrique des pierres précieuses pour les géants. C'est une briqueterie, paraît-il. En voici d'autres, deux, trois. Les matières en fusion bouillonnent, scintillent, jettent des éclats bleus, rouges, jaunes, verts, des reflets de diamants monstrueux, des rubis, d'émeraudes, de turquoise, de saphir, de topaz. Et près de là, les grandes forges soufflent leur haleine ronflante, pareil à des mugissements de lions apocalyptiques. Les hautes cheminées jettent au vent leur panache de flammes, et l'on entend des bruits de métal qui roulent, de métal qui sonnent, de marteaux énormes qui retombent. « Mais où sommes-nous ? » Une voix de farceur ou d'affolé, nous répond « Dans un ballon, mais où sommes-nous ? » « L'île ! » Oh, nous nous étions point trompés. Déjà, on ne voit plus la ville, et voici Roubaix sur la droite. Puis des champs bien cultivés, réguliers, de tons différents selon les cultures, et qui semblent tout jaunes, gris ou bruns dans la nuit. Mais des nuages s'abattent derrière nous, couvrent la lune, tandis qu'à l'est, le ciel s'éclaircit, devient un bleu clair avec des reflets rouges. C'est l'aube. Elle grandit vite, nous montrant maintenant tous les petits détails de la terre, les trains, les ruisseaux, les vaches, les chèvres. Et tout cela passe avec une prodigieuse vitesse. On n'a pas le temps de regarder, à peine le temps de voir que d'autres prés, d'autres champs, d'autres maisons ont déjà fui. Les coqs chantent, mais les voix des canards dominent tout. On dirait que le monde en est peuplé, couvert tant ils font le bruit. Les paysans matineux agitent les bras, nous criant « Laissez-vous tomber !» Mais nous allons toujours sans monter ni descendre, penchés au bord de la nacelle et regardant couler l'univers sous nos pieds. Jovis signale une autre ville, très loin. Elle approche, dominée par des clochers antiques et ravissantes, puis un signe d'en haut. On discute, est-ce Courtrai ou est-ce Gand ? Déjà nous sommes tout près et nous voyons qu'elle est entourée d'eau, traversée en tous sens par des canaux. On dirait une Venise du Nord. Juste au moment où nous passons sur le beffroi, si près que notre guide d'Europe, longue corde traînant sous la nacelle, a failli le toucher, le carillon flamand se met à chanter 3 heures. Ses sons légers et rapides, doux et clairs, semblent jaillir pour nous de ce mince toit de pierre frôlé dans notre course errante. C'est un bonjour charmant, un bonjour ami, que nous jette la Flandre. Nous regardons et nous répondons avec la sirène dont l'horrible voix résonne par les rues. C'était Bruges. Mais à peine l'avions-nous perdu de vue que mon voisin Paul Vessant me demande « Ne voyez-vous rien sur la droite et devant vous ? On dirait un fleuve. » Devant nous, en effet, s'étend au loin une ligne lumineuse sous la clarté de l'aube. Oui, cela a l'air d'un fleuve, d'un immense fleuve, avec des îles dedans. « Préparons la descente !» dit le capitaine. Il fait rentrer dans la nacelle M. Mallet, toujours penché dans son filet. Puis on serre les baromètres et tous les objets durs qui pourraient nous blesser dans les secousses. M. Bessant s'écrie « Ah ben voilà des bancs de navire à gauche, nous sommes à la mer !» Des brumes nous l'avaient caché jusque-là. La mer était partout, à gauche et en face. tandis qu'à notre droite, l'Escaut, joint à la Meuse, étendait jusqu'à la mer ses boucles plus vastes qu'un lac. Il fallait descendre en une minute ou deux. La corde de la soupape, religieusement enfermée dans un petit sac de toile blanche et placée bien en vue afin qu'elle soit touchée par personne, fut déroulée et M. Mallet la tient en main tandis que le capitaine Jovis cherche au loin une place favorable. Derrière nous, le tonnerre gronde et aucun oiseau ne suivrait notre course folle. « Tirez !» cria Jovis. Nous passions sur un canal. La nacelle frémit deux fois et s'inclina. Le guide-robe a touché les grands arbres des deux rives. Mais notre vitesse est telle que la longue corde qui traîne maintenant ne semble pas la ralentir et nous arrivons avec une rapidité de boulet sur une grande ferme dont les poules, les pigeons, les canards effarés s'envolent dans tous les sens, tandis que les veaux, les chats et les chiens fuient éperdus vers la maison. Il nous reste juste un demi-sac de lest. Jovis se jette et le horla, légèrement, s'envole par-dessus le toit. « La soupape !» crie de nouveau le capitaine. M. Mallet se suspend dans la corde et nous descendons comme une flèche. D'un coup de couteau, l'amarre qui retient l'ancre est coupée. Nous la traînons derrière nous dans un grand champ de betteraves. Voici les arbres. Attention, cramponnez-vous, gare aux têtes. Nous passons encore dessus. Puis une forte secousse nous bouscule, l'ancre a mordu. Attention, tenez-vous bien. Soulevez-vous à la force des poignets, nous allons toucher. La nacelle touche en effet. Et puis s'envole de nouveau. Elle retombe encore, rebondit, et enfin se pose à terre, tandis que le ballon se débat follement avec des efforts d'agonisant. Des paysans accouraient, mais n'osaient point approcher. Ils furent longtemps à se décider avant de venir nous délivrer, car on ne peut mettre pied à terre sans que l'aérostat soit presque complètement dégonflé. Puis, en même temps que les hommes effarés, dont quelques-uns sautaient d'étonnement avec des gestes de sauvages, toutes les vaches qui paissaient sur les dunes venaient à nous, entourant notre ballon d'un cercle étrange et comique de cornes, de gros yeux et de naseaux soufflants. Avec l'aide des paysans belges, complaisants et hospitaliers, nous avons pu, en peu de temps, paqueter tout notre matériel et le porter à la gare de Heist, où nous reprenions à 8h20 le train pour Paris. La descente avait eu lieu à 3h15 du matin, ne précédant que de quelques secondes la pluie torrentielle et les éclairs aveuglants de l'orage qui nous chassait devant lui. Nous avons donc pu, grâce au capitaine Jovis, dont mon confrère Paul Gibsney m'avait depuis longtemps raconté la hardiesse, car ils sont tombés ensemble et volontairement en pleine mer en face de Menton, nous avons donc pu, en une seule nuit, voir du haut du ciel le coucher du soleil, le lever de la lune et le retour du jour et aller de Paris aux Bouches de l'Escaut à travers les airs. 16 juillet 1887.